Oh, qu'est-ce que c'est bien, cette vie en communauté, qu'on peut s'inventer. Oh là là. Ouais. Ah ouais, il y a du monde dans la rue, hein. Non mais la radio, c'est magique.
J'aimerais savoir, quel chemin nous allons prendre aujourd'hui, Manuela?
Oh Alice, mais quelle entrée en matière! Quelle brutalité, je trouve, dans cette jungle urbaine. Toi qui d'habitude te nourris de divagations, tu vois, te voilà dans l'exigence d'une seule destination. Tu m'inquiètes, Alice, hein. Eh bien, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un truc dingue. On va tout faire péter. Ouais, on va faire exploser et on va recommencer. Voilà. Ah voilà. Page blanche, Alice. Le monde est vierge. Imagine que là-dehors, plus rien n'existe. Le monde a été englouti. Tout s'est effondré. Il ne reste que toi, moi et Monsieur Lapin.
Je suis en retard.
Non, Monsieur Lapin, vous n'êtes plus en retard, car le monde n'existe plus, voyez? Du coup, vous n'avez plus de rendez-vous. Et vous devez vous réinventer, Monsieur Lapin. Vous allez faire rêver bien des auditrices et bien des auditeurs. Et toi aussi, Alice, tu pourrais inventer une nouvelle forme de société. Par exemple, une nouvelle humanité, une nouvelle manière de vivre ensemble. C'est génial, non? Tu sais ce que tu ferais, Alice, toi?
Moi, mais je sais bien ce que je dois faire. Mais hélas, je fais toujours le contraire.
Mais non.
C'est parce que j'ai tellement d'envie littéraire.
Ah ouais, bon, ben oui, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'on progresse, là, tu vois. Tu sais que tout à l'heure, on reçoit l'autrice Antoinette Richner. Eh bien, je pense que son dernier bouquin pourrait te donner des idées, Alice. Et pas seulement littéraire. Hein. Ça s'appelle « Après le monde ». C'est une dystopie. Hein.
C'est-à-dire une utopie qui a mal tourné.
Ah, non. Alors, je dirais plutôt une dystopie qui tourne bien. Ouais, alors disons une utopie. Alice, si ça te tente de refaire le monde, je vais te proposer un truc technique de base. Et voilà, à la poubelle, un stylo, de l'imagination, du cœur, et on recommence. On recommence l'histoire depuis le début. Allez, page blanche, c'est quand même mieux que de tout faire péter.
Je n'arriverai jamais à m'intéresser à un livre sans images. C'est pas drôle.
Alice, c'est merveille.
C'est bien simple. Dans mon monde, il n'y aurait que des divagations.
Alice, c'est merveille.
Bon, allez, donne-moi un mot, Alice. Un mot au hasard, comme ça, le premier qui te vient en tête, histoire que je commence une histoire. Ah, bah c'est trop tard, notre invité est déjà arrivé. Bonjour Antoinette Richner.
Bonjour Manuela.
Mais bienvenue dans le monde et le terrier de Monsieur Lapin. Tenez, puisque vous êtes là et que vous avez l'esprit joueur, donnez-moi, comme ça, sans réfléchir, le premier mot qui vous vient à la tête.
Soleil.
Ah, ça fait du bien. Ça pourrait être le début d'une histoire, vous êtes d'accord?
Oui, bah c'est déjà le début d'une après-midi, c'est déjà pas mal.
Ça vous arrive de partir sur un mot pour écrire?
Oui, ça peut m'arriver, une phrase, un mot, une image, un détail que j'ai observé.
Mais plutôt parce que vous l'avez observé, pas un jeu ou une contrainte.
Si, je m'en donne des contraintes aussi, des contraintes de structure ou des contraintes parce qu'il en faut aussi pour dépasser des moments un petit peu de blocage.
Mmh. Alors on avait le mot dystopie tout à l'heure, ne pas confondre avec dyspepsie ou la dyslexie. C'est dingue quand même comme le vocabulaire peut vous rendre disparate parfois. Alors disparate, ça s'écrit avec un I. Hein. Vous aimez l'orthographe Antoinette Richner avec un Y après le R?
Non, j'ai toujours le souci de faire des fautes. J'aime beaucoup les dictionnaires. J'aime bien les dictionnaires de synonymes plus que la vérification de l'orthographe. Mais enfin, quand même, je dois me méfier de mes fautes.
Quand vous faites des prestations sur scène et que vous devez écrire en direct, parce que ça c'est possible, vous n'êtes pas terrorisée à l'idée
Non, mais j'écris jamais en direct.
Ah,
non.
Vous n'êtes pas autant...
Non, j'ai produit des performances littéraires
voilà.
Où l'aléatoire joue un rôle,
oui.
Mais toujours avec des textes qui étaient aboutis, préexistants. J'ai jamais écrit, improvisé l'écriture sur le moment.
Oui, parce que ça c'est quelque chose qui serait un stress pour vous. Je sais que c'est un jeu hein, pour certains auteurs.
Oui, j'aurais peur d'une certaine pauvreté qui peut aussi, ou d'arriver avec des stéréotypes, ou d'arriver avec des choses qui sont mal digérées.
Oui.
Bon, à part ça, l'orthographe, à l'oral, l'avantage, c'est que ça s'entend pas.
C'est pour ça que je fais de la radio, d'ailleurs. Dans votre dernier roman, Après le monde, publié chez Buchet Chastel, nous sommes en 2023. Un cyclone s'en mêle. Aux États-Unis, la côte ouest est ravagée. Et puis, c'est un peu le château de cartes. Hein. Tout le système bascule. Le système mondial s'effondre. Un petit peu comme maintenant, faut le dire, mais peut-être en pire. Et puis, un autre monde s'installe. un monde disparaît, un autre, bah, vous le faites renaître. C'est ça aussi le pouvoir de l'autrice, au fond. C'est incroyable, votre pouvoir. Vous pouvez faire renaître le monde.
On peut tout faire. Mais... c'est une vengeance sur la vie où on subit. Voilà, l'écriture, on invente, on a les pleins pouvoirs. Mais c'est pas pour autant que c'est facile. Donc parfois, on est aussi bien puni de... d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre, par exemple, dans le cas de ce roman. Non, mis devant des difficultés.
Mmh. Mais parce que ça a un côté presque militant, alors je me disais, à partir du moment où on sent le pouvoir du livre, est-ce qu'on n'a pas envie d'exercer le pouvoir, de faire un peu de politique, par exemple?
Ouh là là, non, surtout pas. Non, non. Moi, c'est la fiction, justement. C'est aussi le fait d'avoir le livre... ou le texte, qu'il soit dit ou qu'il soit écrit, entre moi et celui et celle qui va le recevoir.
Oui.
Donc, c'est en tout cas pas l'exposition directe comme une exposition politique.
L'imagination, c'est très important. Est-ce que, dans votre processus, écrire, c'est aussi d'écrire ?
Oui, faire surgir des images, d'écrire, parfois par le détail. Oui, c'est ça aussi mon métier.
J'ai très envie d'écrire, ça, j'écris très difficilement, mais d'un autre côté, ça me fait du bien. C'est un acte libératoire pour moi, et puis j'apprends énormément en écrivant. J'apprends une sorte de patience, j'apprends une sorte de d'écoute, comme ça, très, très affinée de ce qui se passe autour de moi ou en moi. Enfin, en moi et autour, c'est exactement la même chose. Il faut que ça devienne la même chose. Et c'est quand ça devient la même chose qu'on est capable d'écrire.
Ah, quand Nicolas Bouvier s'en mêle, n'est-ce pas, Antoinette Richner, le monde s'apaise, non?
Oui, c'est très beau cette idée que l'extérieur et l'intérieur s'entremêlent au point de devenir la même chose.
Oui, ça c'est assez proche de vous. D'ailleurs, si vous le permettez, Antoinette Richner, avant de nous engouffrer dans le terrier de Monsieur Lapin, lui courir après jusqu'à 17h, vous verrez, vous serez en pleine forme, on s'entend là, je vais tenter un petit portrait qu'on pourrait clouer à l'entrée du terrier, histoire de voir à la sortie, si vous lui ressemblez encore. Est-ce que ça vous tente,
le Bien portrait sûr.
Alors, je sais que vous n'aimez pas apparaître, alors je vous promets de ne pas forcer le trait. Je vais vous faire un portrait à la craie, un coup de pluie, si vous n'aimez pas, c'est parti. Antoinette Richner, vous avez une œuvre kaléidoscopique. Oui, comme quand on regarde à travers le tube et qu'on le met face à la lumière. On y voit tournoyer des mots de toutes les couleurs, de toutes les formes. Mais alors dans une chorégraphie très précise. Non, attention, très graphique aussi. Rien de dispersé dans vos ouvrages. Au contraire, dans votre kaléidoscope, ça tournoie avec obsession, répétition, engagement. Des nouvelles, des chroniques, des romans, du théâtre, des haïkus. Écrire jusqu'à se dissoudre. Dites-vous. Ou se souder, peut-être. Se souder au reste de l'humanité que vous observez avec foi, avec peur, avec tendresse, avec des griffes parfois aussi. L'être à un chat, c'est vous qui avez écrit ça? Se souder donc à l'humanité et regarder par la fenêtre de votre bureau roulotte. Virginia Woolf vous a recommandé d'avoir une chambre à vous. La vôtre est installée dans le jardin de Valongin, dans le canton de Neuchâtel, entre une ceinture autoroutière et une forêt centenaire. Vous y avez écrit, entre autres, « Devenir prêt », Antoinette Richner. Un petit bouquin qui remplace 10 séances d'hypnose. En sortant de là, de ce bouquin-là, on claque sa porte, on froisse l'herbe d'un pied, puis de l'autre, et on échange un ou deux mots à propos du beau temps. Oui, parce que vous aimez échanger les mots, de la deuxième main sur le cœur. Vous êtes dans des collectifs, vous donnez des ateliers, vous faites des lectures publiques, vous travaillez avec des enfants, des musiciens, des comédiens, des terriens, des musiciennes, des comédiennes, des terriennes. Les mauvaises habitudes se désapprennent, me diriez-vous. À la fin, puisqu'il y en a toujours une, vous retournez à votre sédentarité, vous aimez rentrer chez vous. Rentrer en vous pour traquer le mystère, là où le chagrin d'avoir perdu tragiquement une sœur trop tôt est gardé avec soin, et puis celui d'avoir accompagné l'un de vos trois enfants dans son combat contre le crabe. Mais pas que, diriez-vous, pas que, parce que les instants fragiles sont posés sur l'étagère, protégés par votre amoureux, à côté des points de suture et des pots de confiture. Les saisons nous apprennent à renaître. Peu importe où nous sommes, votre petite collection d'instants fossiles donne à votre plume, dont vous vivez, Antoinette Richner, quelque chose d'éternel. Entre nous, vivre de sa plume, c'est forcément tutoyer le ciel, non ? C'est forcément tutoyer le ciel. Vous tutoyez le ciel, hein. Oui.
C'est un très joli portrait, merci.
Est-ce qu'on a le droit de le clouer devant le terrier?
Je dois quand même déconstruire quelques petits mythes au passage.
Oh mon Dieu.
Attention, donc déjà j'ai déménagé cet été, donc ma roulotte en ce moment elle est garée chez le paysan du coin en attendant qu'on trouve un autre terrain pour l'installer.
Ouais, mais elle va vous suivre.
Bien sûr. Ça reste ma roulotte.
D'accord.
C'est l'avantage d'une roulotte, c'est qu'on peut la déplacer.
C'est pas faux.
Et puis, vivre de sa plume, ça, c'est toujours quelque chose que je relève aussi, cette expression, parce que ça pourrait laisser entendre que je vis de mes droits d'auteur, ce qui n'est pas le cas.
Oui, c'est vrai. Mais vous utilisez...
Mais j'ai pas d'autres activités, on va dire, lucratives que tout ce qui tourne autour de la création littéraire et des activités publiques qui vont avec.
Alors justement, d'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure de vivre de sa plume. Mais alors, je dois quand même dire qu'il manque un tout petit peu de truc dans le décor pour votre portrait. Mais vous n'êtes pas baroque, c'est pas votre truc. Mais je vais quand même rajouter maintenant un peu lourdement des choses. Genre, par exemple, l'Institut littéraire de Bienne, que vous avez suivi les résidences en Pologne, à Berlin. Le prix Pigeac d'antan, le prix Suisse de littérature, le prix des lecteurs de la ville de Lausanne. Non, c'est pour bientôt.
Je suis dans la sélection avec Après le Monde, ouais, j'en suis ravie.
Merveilleux. Et puis des multiples collaborations avec le théâtre et bien d'autres choses encore. Mais comment dire, qu'est-ce qui vous ressemble le plus dans ces styles? Le fait qu'il y ait tous les styles?
En tout cas, moi j'étais heureuse de vous entendre dire dans le portrait qu'il y avait des obsessions qu'on retrouvait ou une obstination qu'on retrouve parce que... Voilà, bien malin qui trouvera le fil conducteur d'une œuvre à l'autre dans ce que j'ai écrit. Personnellement, j'ai pas du tout ce recul ni même cette envie de m'expliquer pourquoi c'est si différent d'une œuvre à l'autre. Mais oui, je pense qu'il y a des fondements. Par exemple, quand on a entendu Nicolas Bouvier, le fait d'arriver à cet état où l'extérieur et l'intérieur sont communiquent, c'est clair que dans une œuvre comme Devenir Pris, c'est ça, même dans le titre, on l'entend déjà. C'est qu'il n'y a plus de distinction entre l'individu qui regarde et ce qui est observé, en l'occurrence le prix.
Et ça, c'est, il me semble, une quête, en tout cas un des fils rouges de votre œuvre.
Oui, tout à fait, oui. Mais après, il y a peut-être tout simplement un effet un petit peu... un effet flipper, comme ça, c'est-à-dire que si je fais des choix dans un texte, je dois abandonner certaines options, forcément. Et puis, ces options-là, j'ai peut-être envie de les mettre en œuvre dans le texte suivant, quoi. Donc, je pense que c'est aussi, comme un des ricochets, un texte me renvoie à une autre expérience par la suite.
Oui. Vous m'avez envoyé plein de textes. Vous m'avez renvoyé à plein de textes et à la fin, ça ricochait tellement dans ma tête que je savais plus comment faire.
Désolée.
Moi, je ne sais pas trop, pour le moment, qui je suis. Du moins, je sais qui j'étais quand je me suis levée le matin. Mais j'ai dû, je crois, me transformer plusieurs fois depuis lors.
Vous êtes-vous transformée depuis ce matin, Antoinette Richner?
Transformée.
Au contact du reste du monde, juste le voyage, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une grande stabilité ou une porosité au monde qui vous entoure?
Une grande porosité, c'est sans doute pour ça que, comme vous le dites, j'aime pas trop apparaître et j'aime bien rentrer en moi-même.
Oui.
Mais pas tout le temps, c'est ça aussi, entre un désir de sortir de ma coquille et de rentrer dans ma coquille.
Quel fragile équilibre. Alors si vous êtes d'accord, nous avons piqué un disque dans votre verger, ou peut-être dans celui du pommier de Neuchâtel, c'est une salle que vous aimez bien. Regardez le ciel, Antoinette, un instant, voici Pomme et ses oiseaux.
Si les rues sont si grandes, c'est pour respirer. J'ai un oiseau dans le ventre, je l'ai transporté jusqu'à toi pour le sauver. Quand tombe sur tes cils un voile de flocons, c'est le froid qui habille les toits des maisons quand le ciel te fait des dons. C'est un endroit rêvé pour les oiseaux. Ils viennent s'y reposer quand leur cœur est gros.
Mmh.
frapper à ta porte sans te prévenir. À l'âge des amours mortes, t'as su me cueillir dans tes bras pour me guérir. Je reviendrai m'étendre près du parc Laurier. Si tu savais m'attendre, on se marierait quelque part au mois de mai.
Je suis le vertige initial. Je suis la page blanche, celle que l'on redoute sur le banc de la classe comme sur la table de bistrot où l'on écrit, entre deux pernauds ou deux whisky, sa dernière lettre d'amour. La page blanche, ça n'a rien à voir avec les cerisiers blancs, ni avec les roses blanches. Ce n'est même pas le premier vers d'un poème, ni l'annonce d'une rengaine. C'est avant le commencement du monde, avant que le ciel et la terre ne soient séparés, avant le premier soir, avant le premier matin.
Oh, la page blanche, quand Antoine Livio, qui travaillait à la radio, l'abordait de mots. Avant le monde, vous c'est après le monde. Antoinette Richner, c'est quoi pour vous la page blanche?
C'est une légende dont j'entends parler depuis la nuit des temps, mais qui ne me concerne pas vraiment parce que j'ai jamais eu ce problème de... comme on l'entend en tout cas dans le cas de la création, d'une sorte de blocage ou de blackout plutôt que...
Ouais, c'est ça. Et même aujourd'hui, vous avez votre petit carnet et il y a déjà des mots dessus.
Mais ça va très vite en fait. Je trouve tout est invitation à écrire. Mais après, moi j'aurais plutôt le problème du tri. Ça a toujours été ça, c'est que je produis beaucoup trop et puis il faut que je... comme une sauce, il faut la faire réduire. Et c'est en fait le gros de mon travail, c'est souvent les coupes et les réductions et les lagages. Et c'est ça que j'ai le plus de difficultés à faire souvent.
Est-ce qu'avec les années, ça se simplifie? Vous connaissez mieux la recette ou en fait à chaque...
Non, pas du tout.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est de pire en pire. Non.
Alors justement, Antoinette Richner, vous avez accouché de votre premier bouquin et de votre premier enfant à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, vous avez le double d'âge, le triple d'enfants, le quintuple de prix littéraires et des dizaines de chroniques, pièces, théâtres et ouvrages. Quand vous regardez en arrière, vous avez plutôt le vertige ou les pieds encore plus fixés dans la terre?
Alors, je pinaille un peu, mais c'est vrai qu'à 20 ans, j'ai pas publié de livre... En tout cas, pas un livre individuel, mais j'ai publié une nouvelle dans un collectif.
Oui, c'était une nouvelle, mais c'est quand même une œuvre.
Ah, mais c'était un événement exceptionnel pour moi, un événement fondateur, parce que c'était le résultat d'une sélection dans un concours.
Qui s'appelait Pijac.
Pijac,
moi je l'appelais Pyjama. Le prix Pijac, absolument, et que vous gagnez en plus. Et ça s'appelle le prix, et vous gagnez le prix.
Alors ça, c'était bien plus tard, quand j'ai gagné. Ouais, parce que donc quand j'avais 20 ans, le prix Pija, c'était une nouvelle qui s'appelait Jour de visite.
Ah oui,
et
c'est ça.
Le prix, c'est le titre d'un roman que j'ai publié en 2015, donc un petit peu plus âgé.
Et qui a eu aussi un prix.
Il a reçu le prix suisse de littérature, un des prix suisses de littérature, et le prix Danton.
Mais lancer un jeune auteur, cela suppose des risques, Michel Dantan. Prenez-vous des risques considérables avec votre collection?
À vrai dire, nous avons quelque chance à la coopérative Rencontre. Lorsque les deux maisons se sont séparées, Édition Rencontre et coopérative Rencontre, la coopérative s'est trouvée riche d'une certaine fortune et elle a jugé bon non seulement de payer les auteurs comme il se devait, mais même elle a pu être généreuse à leur égard et non pas payer des droits d'auteur, mais offrir véritablement quelque chose qui ressemblerait à un prix.
Voilà qui est une sorte de luxe.
Alors, c'est le moment de toute façon de sauter maintenant dans le terrier. Vous n'avez pas peur du vide?
Ah non, allons-y.
Ah oui, non, mais je vous vois. Alors, souriante, c'est parti. 1, 2, 3. Attention. Attention. Ah non, mais vous souriez comme Mary Poppins, vous, en sautant dans le trou. Fantastique.
J'adore.
Ah là 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 là. J'en étais sûre. J'en étais sûre, minuscule. Non, non, ça va vous plaire. Oui, bon, il y a deux gros adultes, c'est vrai. Mais regardez, Antoinette, juste là derrière leurs pieds. Mais penchez-vous, là. Ah, il me semble que l'une d'elles vous ressemble.
Eh bien, nous avons ici une variété de fourmis, certainement américaine, qui a, on le voit sur la droite, un thorax très développé. Et cette fourmi mange avec ses mandibules. Vous remarquez que la fourmi se nettoie constamment la mâchoire. C'est un animal très propre. Le bricolage.
Ici, les fourmis sont dans les feuilles, n'est-ce pas?
Bien sûr. Le bricolage que nous avons fait aujourd'hui s'appelle un vivarium. Nous venons de voir un magnifique vivarium. Ici, les fourmis travaillent dans la nature, dans la verdure. Il y a deux types de fourmis, ou bien elles recueillent de la verdure pour se faire des jardins dans la terre, dans leurs galeries, sur lesquelles elles vont cultiver des champignons, par exemple.
Oui, il s'agit donc là de fourmis agricoles.
Voilà, ou bien elles recueillent des feuilles particulièrement lourdes et solides, pour se construire des habitations aériennes sur les petites branches.
Et dans ce cas, nous avons affaire à ce qu'on appelle les fourmis couturières.
Voilà, les fourmis couturières. Remarquez que les mandibules, c'est-à-dire les mâchoires, si vous voulez, se comportent comme des scies à découper et qu'elles peuvent ainsi détacher des morceaux considérables. Considérables, en effet, la fourmi porte environ 200 fois son poids.
Et voilà. Hein ? Alors, non, pas la fourmi américaine. Non, parce que j'ai vu que vous avez eu un petit peu peur au niveau des mandibules. Non, mais la fourmi, justement, qui a un univers qui va nous survivre. Et puis, votre manière d'approcher l'écriture, un peu comme une, vous dites, costumière, que vous connaissez bien, puisque le milieu, vous l'avez fréquenté, vous y avez travaillé pendant de nombreuses années. Moi, je dirais aussi couturière, vous faites plein de retouches sans arrêt. Vous êtes capable de porter 200 fois votre poids, non ? C'est vous, la fourmi.
C'est rigolo parce que je me retrouve un peu dans les deux types de fourmis dont on a entendu parler. La couturière, certes, parce que c'est assembler des matériaux, mais et puis faire des petites retouches jusqu'à ce que ce soit nickel ou que ça me satisfasse. Mais la fourmi agricole, je crois,
celle
qui fait pousser, qui aménage des conditions pour faire pousser des champignons. Moi, j'ai toujours vu l'écriture comme un double phénomène. Il y a ce qu'on exerce comme l'artisan, on exerce des opérations sur la matière, mais il y a aussi le faire pousser, laisser pousser, parce qu'il y a toute une part de la chose qui se passe d'elle-même. Si c'est pas qu'il se passe rien, ça travaille, mais c'est pas quelque chose de volontaire.
Vous mettre à disposition de ce qui peut vous arriver.
Exactement, ouais. Mais c'est vraiment un subtil équilibre entre les deux, parce que c'est pas que c'est vrai qu'il n'y a rien à faire et que ça se produit tout seul, bien sûr que non. On agit sur ce qui se produit, mais on ne fait pas tout.
Bon, en tout cas, là, vous avez fait la preuve. On va écouter la costumière couturière Antoinette Richner, pas dans un roman, mais capturée dans un journal, il y a de cela quelque temps dans le temps.
On n'a pas besoin des EasyJets, on n'a pas besoin de Coca-Cola, on n'a pas besoin de parcs d'attractions, ni de centres thermaux, ni de centres de fitness. On n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. On n'a pas besoin des actionnaires. On n'a pas besoin des Jeux Olympiques. On n'a pas besoin de coiffeurs pour chiens. On n'a pas besoin d'onglerie. On n'a pas besoin de stars de football. On n'a pas besoin de promoteurs immobiliers, ni de spéculateurs sur le blé. On n'a pas besoin de fabriquer des citrouilles en plastique pour Halloween. On n'a pas besoin de girafes en pluche. On n'a pas besoin de voitures électriques. On n'a pas besoin de construire plus de routes. On n'a pas besoin de publier sur les réseaux sociaux des photos de soi enfant. On n'a pas besoin de vidéos de chats. On n'a pas besoin de data center au pôle Nord. On n'a pas besoin de pipeline sur les territoires Sioux. On n'a pas besoin de contrats de 400 pages, ni de labels, ni de permis, ni de certificats à foison. On n'a pas besoin de publicité dans les espaces publics. On n'a pas besoin d'obsolescence programmée. On n'a pas besoin de vendre des armes. On n'a pas besoin de 524 titres à la rentrée littéraire et on n'a pas besoin de plus de revues et de magazines qu'on ne pourra jamais en lire. On n'a pas besoin de produire, reproduire et produire des contenus pour la folie d'en produire. On n'a pas besoin d'autant de festivals, on n'a pas besoin de ketchup, on n'a pas besoin de pêcher dans les mers jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. On n'a pas besoin de pesticides, on n'a pas besoin de s'envoyer autant de mails. On n'a pas besoin de visualiser des vidéos partout et en tout temps. On n'a pas besoin de 5G et on n'a pas besoin d'autant de suggestions pour ne pas s'ennuyer en temps de confinement.
Et on ne s'ennuie pas à vous lire, Antoinette Richter. Et l'histoire ne se termine pas là, n'est-ce pas, Antoinette ? Parce qu'après ça commence le fameux débat entre le porte-parole de la coalition mondiale pour tout changer et les parlementaires. Et dans cette nouvelle, presque, on va dire que c'est une nouvelle, une chronique, moi j'appelle ça une nouvelle, eh bien, si vous sauvez la démocratie, vous laissez quand même un tout petit peu mourir la terre. Dans l'histoire, on s'entend. C'est terrible.
Ah oui, c'est vrai que là, on est devant des choix très difficiles. Bon, on a une société qui est extrêmement complexe, sans doute trop complexe, sans doute trop productive. Enfin, on sait que c'est les activités humaines là qui sont en volume exponentiel et que c'est ça qui crée des atteintes irréversibles à la Terre. Mmh. Donc, comment revenir à un système peut-être un petit peu moins complexe ou un petit peu plus respectueux de ce qui nous entoure? Sans un désastre social, en fait. C'est ça la question. Et puis, ce qui était compliqué pour moi dans ce texte-là, c'était d'aller jusqu'à remettre en question aussi la quantité de production culturelle. La phrase « on n'a pas besoin d'autant de festivals », elle m'a coûté, en fait.
Est-ce que vous allez écrire moins de livres ?
Bonne question. Qu'est-ce que c'est aussi que tout ce diktat de la visibilité, production, visibilité, être là, être... Est-ce qu'on n'est pas aussi coincé en tant qu'artiste? Là, je parle pas que de la stricte littérature, mais dans cette obligation de mettre sur le marché très régulièrement des objets pour continuer à se sentir exister, à exister pour les autres. Mmh. Comment on fait pour sortir de ces spirales-là, finalement?
Vous venez vous réfugier dans le monde d'Alice.
C'est ça, et dans c'est le facile.
C'est tout simple. Bon, en tout cas, c'est ma technique. Votre mot préféré de la langue française, Antoinette Richner, c'est esperluette. Esperluette. C'est le lien. C'est ce caractère d'imprimerie, genre Antoinette Richner et associé, Richner et fils, Richner et fille. C'est ça, hein? Esperluette. C'est ça aussi votre utopie, le lien, se battre pour le lien?
Oui. Se battre pour le lien, en tout cas d'écrire, c'est ma manière de me mettre en lien avec les autres. Et puis c'est un petit peu paradoxe parce que souvent je suis toute seule pour écrire. Mais je sais avec l'espoir d'être lue et je sais que c'est ça qui me met en lien.
C'est ça le rendez-vous.
Et parfois, dans l'écrit, j'ai le sentiment d'avoir des liens qui peuvent être parfois plus intenses ou plus forts que des liens oraux. Ça peut m'arriver, je dis pas que c'est une règle, mais...
Ça arrive.
Ça m'arrive, oui.
Oui. Il y a des bouquins que vous nous avez proposés, avec lesquels vous êtes venu dans le terrier de Monsieur Lapin, et qui vont probablement établir des liens. Vous m'avez recommandé de bonnes lectures, comme celle de David Foster Wallace, qui a vécu un destin tragique lui aussi, mais qui aura cherché la lumière, en tout cas, jusqu'au bout. Plusieurs de ses ouvrages sont d'ailleurs publiés en français aux éditions de l'Olivier. Vous avez pointé du doigt... sur l'un d'eux, Antoinette, une histoire de poisson qui se demande ce qu'est l'eau. Qui est David Foster Wallace?
Un écrivain américain qui est décédé, je crois, dans les années 90, sauf erreur.
Oui.
Qui est magnifique, qui est extraordinaire. Et c'est de l'eau. C'est le titre de ce texte dont je vous ai parlé. C'est un petit texte court. C'est un discours qu'il a prononcé à l'occasion d'une fête de diplôme, en fait, d'une sortie de diplôme dans une haute école aux États-Unis. Et en fait, c'est très très fort, parce que ça nous ramène vraiment à... Ça nous rappelle qu'on est un ou une parmi d'autres, qu'il y a tout le monde autour de nous, que ceux qui nous agacent parce qu'ils sont devant nous dans la file du supermarché et puis qu'on est en retard... que ceux qui sont devant nous dans le bouchon d'autoroute, peut-être leur père est en train de mourir d'un cancer, peut-être. Il nous remet dans la compassion, en fait, dans une compassion générale, et il nous force à sortir aussi de cette vanité, de ce petit narcissisme, de l'incapacité pour finir, parce qu'on est tellement pris dans ce qu'on a à faire et dans nos petits problèmes qu'on voit plus ceux qui souffrent autour de nous. Justement, ce lien, en fait, je trouve qu'il arrive très très bien à le mettre en évidence. Et puis, c'est aussi un discours social parce qu'il s'adresse à des gens qui
sont jeunes et qui vont commencer leur vie professionnelle.
Oui, puis qui vont occuper quand même une catégorie sociale assez élevée, qui vont occuper des postes importants parce que c'est une école qui prépare l'élite. Et puis, je trouve qu'il les ramène aussi à des choses très pragmatiques et à considérer ceux qui sont autour d'eux, qui sont un environnement qui n'est pas un décor, mais qui est fait de personnes humaines réelles, vivantes.
Oui, c'est ça. Autre bouquin qui réconforte, Vous nous offrez aussi à la lecture Momo de Michael Ende, dont voici la rampe d'accès.
Momo, c'est la petite fille sans âge, sans parents, venue d'on ne sait où. Elle trouve refuge dans un amphithéâtre en ruine et vit dans un petit réduit que Nicolas le maçon et tous ses amis ont aménagé pour elle. Tous les gens simples et pauvres qui vivent dans le quartier où est situé l'amphithéâtre aiment Momo. Quand ils viennent chez elle pour lui raconter leurs problèmes, ils repartent soulagés. La magie de Momo, c'est qu'elle sait écouter. Autour de Momo, il y a Beppo, le balayeur, et Gigi, le guide touristique, Nino, l'aubergiste, et sa femme. Elle leur offre de son temps, ce qui les rend heureux et inventifs. Mais ce bonheur de vivre ensemble est détruit lorsqu'arrivent des messieurs en gris qui investissent les villes afin de voler le temps des hommes. La vie devient monotone, sans joie. Mais évidemment, Super Momo va nous débarrasser de ses rabat-joies. Quand elle va comprendre ce qu'ils bidouillent, qu'elle va percer leurs secrets, elle va devenir dangereuse, Momo. S'ajoute à cela Cassiopée, la tortue, et évidemment Maître Aura, l'administrateur du temps des hommes. Une grande balade dans l'horlogeret, histoire d'intégrer l'énigme du temps qui passe, de celui qu'on dilapide, de celui qu'on nous vole, et de celui que parfois on est capable de savourer.
Michael Ende, Momo, chez Bayard Jeunesse. Vous avez trois enfants, Antoinette Richner. Quel rapport ont-ils au papier et au livre, papier et au temps qu'ils lui consacrent?
Actuellement, mes deux plus jeunes, il y en a un qui a 7 ans et qui est en train d'apprendre à lire, qui se débrouille déjà pas mal. Et c'est très beau parce qu'il commence à lire des livres à son cadet, qui a 2 ans et demi. Donc de les voir tous les deux sur le canapé, l'un qui déchiffre et l'autre qui est tout ouïe, c'est vraiment un spectacle très émouvant pour moi.
Et ce sont des livres que vous choisissez, que vous recevez. Comment une maman auteur impose-t-elle la programmation à ses enfants?
On est abonné à la bibliothèque, alors oui. Voilà, là je les laisse choisir et puis de temps en temps je fais une suggestion. Mais on a aussi beaucoup reçu de livres, vous l'avez dit, vous en avez parlé, il y a eu cette maladie aussi de mon fils aîné, avec une hospitalisation et un traitement qui a duré 6 mois. Et là, on a énormément reçu de livres. C'est un des bons souvenirs, c'est peut-être bête à dire, mais ouais. Il y a eu aussi des bons souvenirs dans cette période qui était à la fois très éprouvante et très intense, en lien d'amitié. Et beaucoup, beaucoup de gens nous ont offert des bouquins. Et puis pour finir, je me rappelle, on avait la poussette du bébé qui était dans la pièce, dans la chambre d'hôpital, et elle se remplissait de livres. Donc c'est devenu une poussette bibliothèque, en fait.
Ah, c'est bien ça.
Bibliopousse, on l'appelait.
Ça, c'est le bébé de la roulotte.
C'est ça.
Eh bien, retour sur Terre, Antoinette, cette Terre que vous aimez, que vous défendez, parce que vos livres sont politiques et vous l'assumez. Alors, pour vous rafraîchir un tout petit peu vos neurones, très sollicités ces temps-ci, j'ai une technique infaillible, vous allez voir. On va se mettre les pieds dans l'oiseau. Ah,
ça fait du bien.
Ah, on sent déjà la détente. Oh là là, c'est parti.
Si on ne lisait pas, ce serait atroce. La vie serait atroce.
Les pieds dans le ruisseau, moi je regarde couler la vie. Les pieds dans le ruisseau, moi je regarde sans dire un mot. Les gentils poissons me comptent leur vie en faisant des ronds sur l'onde jolie, et moi je réponds en gravant dans l'eau des mots, jolis mots, mots de ma façon. Les pieds dans le ruisseau, moi je regarde couler la vie. Les pieds dans le ruisseau, moi je regarde sans dire un mot. Au fil du courant s'efface une lettre, lettre d'un amant disparu peut-être. Ah, que je voudrais trouver près de moi une fille dont je pourrais caresser les doigts. Les pieds dans le ruisseau, moi je regarde couler la vie. Les pieds dans le ruisseau, moi je regarde sans dire un mot. Et quand le crapaud berce au crépuscule parmi les roseaux, dame libellule penchant mon visage au-dessus de l'eau, je vois mon image, moi je vois l'idiot.
Et celui qui vous tend une serviette pour vous éponger les pieds, Antoinette Richner, s'appelle Jacques Brel. Joël Maillard, Odile Cornu, Noël Rovard, Rutsch Weikert, Lucas Berfus, Laurence Boissier, Julien Marais, Elisa Choix du Sapin, Jean-Pierre Rochat, Gotha Christophe, Nicolas Boyenberg, Mathias Choquet et des dizaines d'autres autrices, d'autres auteurs que vous venez mettre dans la bibliothèque d'Alice. Et on vous en remercie, Antoinette Richner, pour cette terre labourée par vos soins qui va nous nourrir pendant la pandémie, après la pandémie. C'est vrai que finalement, le livre, en cette période d'enfermement, c'est quand même bien utile comme fenêtre, non ?
Oh que oui, ouais, ça fait du bien.
Alors parmi la liste que vous avez postée à l'adresse du Terrier, j'ai retenu L'embrasure de Dounalou. L'embrasure, c'est le titre. Loup comme le loup dans le petit chaperon rouge pour l'orthographe, mais comme le loup libre et attentif que l'écriture de Douna contient. Franchement, je suis super fan, mais vraiment, juste un mot sur elle peut-être, sur Dounalou, vous l'avez rencontrée quand ?
L'embrasure, c'est son premier titre, sa première publication. Ouais, oui. J'ai un souvenir très fort, même des premières pages, qui ça débute dans la forêt. Ah, il y a ce rapport à la forêt.
Vous ne croyez pas si bien dire.
La forêt est grande, profonde, vibrante, vivante et vivifiante. Elle est quelque chose comme une femme qui voudrait l'homme sans lui dire. Quelque chose qui dit oui sous la robe, mais qui s'est perdu dans la bouche. Qui devient tendre dans l'humus et vous jette des ronces au visage. La forêt est comme ça ici. Le sauvage sait y faire. L'attirance qu'elle éprouve à se faire explorer, elle la garde au-dedans. De la sève en puissance qui coule sous la terre, qui monte comme une odeur et vous emballe sur le champ. Même le ciel au-dessus ne reste pas indifférent. Qu'elle soit froissée après la pluie, comme les femmes qui préfèrent se doucher avant, qu'elle soit bouillante de soleil, comme celle qui brûle après la porte d'entrée, la forêt, ici, elle ne laisse personne sortir indemne. Elle retient un peu de notre substance dans sa rivière profonde. Elle se charge d'enseigner l'ardeur. J'aime chasser par ici. Ça sent meilleur que tout. J'aime traquer dans les feuilles, suivre la route du bois et débusquer la bête. C'est mieux qu'au bar, mieux qu'un flirt, mieux que la sueur sur les femmes. Je dépense mon énergie positive. Je ramène sur moi du sang et des kilos de liberté fraîchement morte. Mieux que ce qu'on peut imaginer. Quand je tire, ce chevreuil ne sent pas venir sa fin. Rien à voir avec ces bêtes qui attendent et puis meurent à l'abattoir. Rien à voir avec ces idiotes au bar qui ne pensent qu'à croire au prince charmant quand tout le monde sait qu'elles n'ont rien à offrir. Le chevreuil que je tire, il a vécu l'élan et la faim sous le ciel. pas comme ces bêtes de ferme qui attendent juste leur faim. C'est pour ça que je chasse le samedi en forêt. C'est pour ça que le soir, je me sens bien. Et quand on conduit pour rentrer, quand on laisse choir nos corps d'hommes sur les sièges de la voiture qui sent la bête, on rigole et on chante ce qu'on veut. Après, les gars veulent que je vienne. Le verre du samedi, c'est une habitude de loisir, une distraction tenace au corps. Je fais souvent office d'être là, sans me sentir toujours des leurs.
Douna Lou, notez ça, L-O-U-P, L'Embrasure, autrice suisse, publiée au Mercure de France.
Magnifique extrait.
C'est beau. Et je me disais, voilà typiquement Antoinette Richner, si vous ne pointez pas votre doigt sur ce livre, si vous ne l'emmenez pas dans le terrier de Monsieur Lapin, comment je fais pour tomber dessus actuellement dans les milliers de livres qui nous tombent sur la figure?
C'est vertigineux, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut s'y croire à une petite étoile. Et puis parfois, le livre qu'il nous faut arrive au bon moment.
Là, c'est une voix de femme qui se met dans le corps d'un homme. Mm-hmm. Vous l'avez souvent fait, vous aussi?
Je l'ai fait surtout au théâtre. Dans le roman Le Prix.
Et Le Prix,
voilà.
Absolument.
C'est un monologue d'homme, en fait. Mm-hmm. Mm-hmm. Non, mais je crois que ce qui m'avait amené à prendre un personnage masculin, c'est parce que je voulais parler de tâches qui sont traditionnellement dévolues aux femmes. Et je voulais pas justement les garder assignées à un personnage féminin, mais je voulais quelque part les universaliser ou les montrer dans ce qu'elles avaient aussi d'astreignant, des tâches domestiques, des tâches liées aux soins des enfants, en les sortant justement de ce domaine féminin, puis en les montrant telles qu'elles sont toutes nues, en me disant si c'est un homme qui les raconte, il pourra mieux dire ce que ça a justement d'astreignant ou parfois d'aliénant.
La Louve de Barbara, vous connaissez l'album?
Non.
Mais vous aimez Barbara, ça je le savais. Vous savez, elle dit un truc bien que Virginia Woolf vous a déjà suggéré, Antoinette Richner, de disposer donc de sa chambre, de son espace. Et bien grâce à Barbara, ici, dans le terrier, vous aurez un lit semblable à une arène où vous pourrez mener tous vos combats.
Je m'invente un pays où vivent les soleils qui incendient les mers et consument les nuits. Les grands soleils de plomb, de bronze ou de vermeil, les grandes fleurs soleil, les grands soleils soucis. Ce pays est un rêve où rêvent mes saisons. Et dans ce pays-là, moi je fais ma maison. Ma maison est un bois, mais c'est presque un jardin qui danse au crépuscule autour d'un feu qui chante, où les fleurs se mirent dans un lac sans teint et leurs images en baume aux brises frissonnantes, aussi folle que l'aube, aussi belle que l'ombre. Dans cette maison-là, j'ai installé ma chambre. Ma chambre est une église, et je suis à la fois, si je vante un instant, ce monument étrange. Et le prêtre, et le dieu, et le doute, et la foi, et l'amour, et la femme, et le démon, et l'ange. Au ciel de mon église brûle un soleil de nuit. Dans cette chambre-là, j'ai couché mon lit. Mon lit est une arène où l'on mène un combat sans merci, sans repos, je repars, tu reviens. Une arène où l'on meurt aussi souvent que ça, mais où l'on vit pourtant sans penser à demain. Où les grandes fatigues chantent quand je m'endors. Je sais que dans ce lit, j'ai ma vie, j'ai ma mort. Je m'invente un pays où vivent les soleils qui incendient les mers et consument les nuits. Les grands soleils de plomb, de bronze ou de vermeil. Les grandes fleurs soleil, les grands soleils soucis. Ce pays est un rêve où rêvent mes saisons. Mais moi dans ce pays, j'y ai fait ta maison.
Moi, je ne sais pas écrire des chansons, je pense que c'est très difficile. J'ai beaucoup de mal à les écrire, d'ailleurs. Je ne m'intitule pas du tout auteur-compositeur. J'ai ça ce mot-là en horreur.
Et si vous deviez en écrire d'autres, si on vous en commandait d'autres, par exemple, est-ce que vous auriez, en les écrivant, l'idée
commerciale de la chanson.
Elle est commerciale, mais c'est un mot que j'aime pas non plus parce qu'il y a des bonnes chansons. Commerciale, en fait, c'est un mot, c'est un peu comme le mot rive gauche ou comme le mot intellectuel, ça veut pas dire grand chose. Au fond, on peut rendre une denrée commerciale.
Oui,
la moutarde de Dijon était pas commerciale avant qu'on en fasse peut-être la moutarde de Dijon, moi je ne sais pas.
Barbara Limance, qui a la moutarde qui lui monte au nez quand on lui balance des mots qui ne veulent rien dire. Si votre dernier livre, Après le Monde, publié chez Buchet Chastel, était commercial, bon, en tout cas, ça ferait plaisir à votre éditeur.
Mais écoutez, ça me fait plaisir également. D'ailleurs, c'est quand même ma meilleure vente à ce jour. C'est mon plus grand succès public. Donc, j'en suis évidemment très heureuse. Je vais pas considérer qu'il a moins de valeur parce qu'il se vend mieux.
Oui. Comment vous expliquez ça? Vous parliez de la visibilité tout à l'heure.
Non, il y a, je sais pas, un ensemble de facteurs, mais c'est aussi peut-être le moment où il est sorti, ce qui était un peu un hasard, mais qui était en janvier 2020 et trois mois avant le confinement. Donc oui, la sensation que notre quotidien, est-ce qu'on croit immuable, peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est une sensation que tout le monde a vécue et qui entre fortement en écho avec ce qui est raconté dans ce roman d'effondrement.
Vous parliez souvent de Joël Maillard, le dramaturge pour lequel vous avez une admiration mais absolument sans borne, et qui lui refuse complètement d'être capturé, qui a même décidé que la seule capture possible de ses textes, c'était la mémoire des comédiens. C'est radical, mais c'est magnifique, non ?
Je trouve que c'est un auteur magnifique qui mériterait d'être largement publié et diffusé. Je suis vraiment très sensible à sa forme d'humour noir et absurde qui développe en fait de spectacle en spectacle. Donc c'est un auteur parfois aussi interprète, metteur en scène, souvent metteur en scène de ses propres textes, qui vraiment il faut aller le voir, il faut lire ça, c'est génial.
Alors, il n'y a rien de neuf sous les tropiques. Ce qui ne marche pas, ce qui marche, c'est un vaste itinéraire, on le sait. Mais ce qu'on aime, c'est quand même plus simple à cartographier, je dirais. Et vous, avec Odile Cornu, eh bien, vous avez, qui est une grande amie autrice, qu'on se réjouit d'inviter dans Alice. vous aimez faire, être dans l'action littéraire, si je puis dire. C'est-à-dire que vous avez même lancé quelque chose qui s'appelle le jukebox littéraire. Vous l'avez porté jusqu'en Afrique de l'Ouest.
Oui,
comment ça fonctionne?
C'est le public qui peut donner des mots. Et sur scène, il y a un ensemble d'autrices et d'auteurs qui sont là avec leurs ordinateurs, leurs bouquins, tout ce qu'ils ont écrit. Et ça, une fois qu'un mot est donné, orange, ben ce sera le premier auteur ou autrice qui va trouver un texte en... Soit où le mot orange est contenu dans le texte, soit qui entre en résonance avec l'idée d'une orange, qui va actionner une petite sonnette de vélo et pouvoir lire son texte. Et ça donne quelque chose de très dynamique, très, très joyeux.
Substantif.
Jour, midi, plateforme, autobus, ligne S, côté, parc, monceau, homme, cou, chapeau, galon, lieu, ruban, voisin, pied, foie, voyageur, discussion, place, heure, gare, Saint-Lazare, conversation, camarade, échancrure, par-dessus, tailleur, bouton.
Ça vous semble important, justement, d'aider les gens à aimer les mots? Parce qu'on a l'impression qu'il faut presque un peu d'artifice comme ça pour les...
Je crois pas que ce soit un artifice, mais disons que c'est le dispositif lui-même qui fait que les gens écoutent avec beaucoup d'attention parce qu'ils attendent, c'est un jeu, en fait, c'est le côté ludique, interactif, puis ils attendent de retrouver leurs mots, quoi. Ils sont en alerte.
Et en Afrique de l'Ouest, c'était l'arbre à palabre version jukebox. Comment ça s'est passé?
C'était le même dispositif, sauf qu'on avait invité des auteurs et autrices de là-bas. Donc on était au Burkina Faso pour 3 jukebox et au Bénin pour 3 autres jukebox. Et c'était passionnant aussi de... En fait, ce que je pense qui m'a le plus frappé de toute l'expérience, outre que c'était la première fois que je mettais les pieds en Afrique, voilà, tout court... C'est la ressemblance des mots qui étaient donnés, c'était des mots très similaires à ce qu'on a pu entendre en Europe et en Amérique du Nord aussi, parce qu'on l'a fait au Québec. En fait, il y a quand même quelque chose d'universel là-dessous.
Un peu comme le conte, les contes qu'on retrouve à travers la planète.
Le plaisir de se réunir autour des mots.
Ah, c'est merveilleux.
Oh, je suis en retard, pour changer, je suis en retard. Oh.
Bah, il y en a eu du monde aujourd'hui. Il y en a eu du monde. Comment vous allez faire pour retenir tous les noms? D'autant que certains d'entre eux sont morts ou je me trompe?
Oh là là. Pour une fois, lapin, ils sont tous vivants. Même certains plus que d'autres. Regarde. Autour d'Antoinette Richter, ce dimanche, il y a Nicolas Bouvier, Olivia Seigne, David Foster Wallace, Antoine Livio, Duna Lou, Émilie Chariot, Joël Maillard, Odile Cornu, Roland Vouillot, Michael Ende. Eugène a failli venir, je dois quand même vous le dire, mais il a dit qu'il allait revenir. Donc, Eugène, il ne faut pas dire Eugène. Vous ne le saviez pas, hein, Antoinette.
Qu'il ne faut pas dire Eugène ?
Non, car il s'est dissimulé dans la peau des Tweedles.
D'accord.
Oui, c'est un truc qui lui a pris. Oui, mais il va revenir, Entre qui et qui vous auriez plaisir à vous asseoir, sans peur et sans risque d'infection, dans le terrier de Monsieur Lapin, pour le banquet qui vous sera servi ce soir, Antoinette ?
Entre les personnes que vous avez citées ?
Mm-hmm.
Ouh là là.
Il faut élaguer, il faut choisir.
Ça fait un moment que je n'ai pas revu Eugène.
Voilà, bon, il n'est pas là, ça tombe bien.
Allez Odile.
Allez Odile. Eh bien soit, on ne se dit pas au revoir Antoinette, parce que vous êtes ici sans espace et sans temps, centenaire et avec des dents. Vous en sortirez ou pas, qui sait. Et même si vous n'écoutez presque pas de musique française, celle-ci vous l'avez choisie, ça vous rappellera une époque. Le groupe Trio, mais version revisitée 2020 avec Zaz en invité, juste pour dire, comme dans vos bouquins, il va falloir se bouger.
Nous, quand on chantait l'hymne de nos campagnes, alors en effet, on nous prenait pour le groupe de Babacou, le qui chante l'hymne de nos campagnes, le petit air écolo. Et puis, j'ai pas du tout un discours qui était véritablement entendu à l'époque, il y a 20 ans. On disait les glaciers vont fondre, etc. Aujourd'hui, ils sont en train de fondre. Aujourd'hui, on le voit et il y a comme une conscientisation. Puis aborder des thèmes graves, mais en restant positif, je pense que c'est un peu l'ADN de notre groupe.
Ce matin, 3000 licenciés, grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris, agglomération.
Ce matin, l'abbé Pierre est mort. On l'enterre sur TF1. Deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin.
Ce matin, le CAC va de l'avant. Deux soldats de moins pour l'Occident. Dix civils de tués à Bagdad dans les bras sanglants du djihad.
Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas. On se contente. Ce matin,
menace de grippe aviaire, trop de fascisme en Bavière, l'Iran travaille au nucléaire et arrive à squat le Niger.
Ce matin, rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats, font des glaces en Alaska et grosse chaleur en Angola. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente.
On s'aime ce matin.
Ce matin,
en des ondes de Saddam, l'eau est nue, crie au scandale. Le Tibet se meurt sous les balles du djinn qui fait son capital.
Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas. On se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent. On s'aime ce matin. Il fait presque beau. Ça tombe bien, je me suis levé tôt. Avec le coq et les oiseaux, sans journaux et sans météo. Ce matin, avec un autre jour, avec toi mon amour. Cette journée durera toujours, on n'en fera jamais le tour.
Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas. On se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus de personne, plus de gens.
Et si on inventait un mot? Oh, mais je suis en retard. Pardonnez-moi, mais vous l'inventerez vous-même, Manuela.
Mais quel mot, monsieur Lapin?
Le mot baladeur, le mot valise, le mot chapeau, le mot cerise. Allez, allez, crachez le noyau, Manuela.
Ah, mais vous voulez parler du podcast?
Podcast, moi, ça manque de goût. Allez, au revoir, je vais être en retard.
Monsieur Lapin, vous pouvez emporter Alice partout. Faut le savoir, vous pouvez l'écouter en podcast. Vous le saviez? Ça y est, j'ai craché le noyau. rts.ch/Alice.
Manuela, faut fermer les livres, les tomes, les parchemins, tout. Il y a l'inforoute.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Fribourg-Vevey, non pas un lapin, mais un accident provoque de forts ralentissements entre Matran et Rossens en direction de Vevey. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours vous rendre sur le site rts.ch/trafic.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Manuela ?
Oui, Alice ?
Il faut quand même du monde pour aller au centre de la Terre, non ?
Ah bah oui, Alice, hein. Il faut plus que de l'imagination, il faut du cœur, il faut des bras, ceux d'un réalisateur.
Yves Roulin.
D'une programmatrice.
Nathalie Schauenberg.
D'une attachée de production.
Nicole Corpato.
Et toi, t'es qui, Manuela Mori ?
Ah bah cette semaine, Alice, je suis le célèbre pianiste Ryder dans L'Inconsolé de Casio et Shiguro. C'est en poche chez Folio, Antoinette adore.
L'heure avec les fondus Wiesmüller, votre fondu local du maître fromager sur wiesmüller.ch.
Stop, faut arrêter, on va être en retard pour les infos, c'est 17h.